nos Bibles et regardons ensemble dans Ésaïe chapitre 9. Mon texte pour ce message est à partir du verset 7 et nous allons continuer dans le chapitre 10 jusqu'au verset 4. Et l'ensemble de ces versets concerne le jugement imminent de Dieu. La Bible nous parle du jugement de Dieu, mais si le jugement ne vient pas immédiatement, les gens continuent leur vie comme si rien n'était. Mais ici, au temps d'Ésaïe, lorsqu'il était en train de prophétiser, ici, dans ces versets, il s'agit du jugement des 10 tribus du Nord, dont leur jugement aux mains de la nation de l'Assyrie était proche. Le mot imminent est relatif à une menace ou un événement redouté qui est sur le point d'avoir lieu, qui va arriver dans un futur très proche. Alors, Ésaïe a commencé à prophétiser vers 740 ans avant Christ, et cette prophétie de la destruction de la Samarie et la captivité des 10 tribus du Nord a eu lieu dans l'année 722 avant Christ. Donc ça nous situe un peu dans l'histoire de ce passage que nous sommes en train d'étudier. 22 ans. Seulement 20 ans, moins de ça, 18 ans après que Ésaïe aurait annoncé cette prophétie du jugement imminent de Dieu. Voilà, effectivement, c'est arrivé comme il a prophétisé. Les 10 tribus qui composaient le royaume du nord d'Israël ont disparu. Jusqu'à nos jours aujourd'hui, à partir de ce moment, conquis par le roi assyrien qui s'appelait à cette époque Shalmaneser, ils étaient emmenés en exil dans ce qu'on appelle la haute Mésopotamie et au Mède, qui correspond aujourd'hui au pays de Syrie. Nous entendons parler de la Syrie dans les nouvelles, et le pays d'Irak moderne. Donc ça nous situe. Mais cette partie ici, du verset 7, en Ésaïe 9, comme je disais, nous allons lire jusqu'au chapitre 10 et le verset 4, est divisée en 4 parties. Et chacune de ces parties se termine par cette phrase. Pour tout cela, sa colère ne s'est pas détournée, mais sa main, c'est-à-dire sa main de jugement, est encore étendue. C'est pourquoi certains ont appelé cette section le discours de la main tendue. Ce n'est pas la main tendue de Dieu en miséricorde, mais plutôt en jugement. Mais lisons ce passage d'abord, et puis je reviendrai pour relever les 4 raisons pour lesquelles Dieu prononce ses jugements. Et on peut se poser la question, quelles sont donc les raisons que Dieu condamne des pécheurs aujourd'hui? Dieu est Dieu. Il est saint. Il est juste. Il ne faut pas que nous imaginons que non, ça c'est l'histoire seulement, c'est l'Ancien Testament, donc Dieu a changé aujourd'hui en Dieu d'amour. Non, il est toujours saint. Il est toujours juste et il doit condamner le péché. Ça fait partie de ses décrets de pouvoir condamner les pécheurs. Mais par sa grâce, son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, Et c'est Christ qui est venu payer leurs dettes. Ceux-là ne subiront jamais la condamnation éternelle de Dieu parce que Christ a payé leurs dettes. Mais le reste doit s'attendre à un jugement éternel. Donc, dans le verset 7 d'Ésaïe 9, c'est écrit, le Seigneur envoie une parole à Jacob. Elle tombe sur Israël. Tout le peuple en aura connaissance, Éphraïm et les habitants de Samarie, qui disent avec orgueil et fierté, des briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille, des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. L'Éternel élèvera contre eux et il amènera leurs ennemis, les Syriens à l'Orient, les Philistins à l'Occident, et ils dévoreront Israël à pleine bouche. Malgré tout cela, notons, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Ça, c'est la fin de la première partie des quatre concernant ces jugements. Dans le verset 12, alors, nous voyons la deuxième partie commencer. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe. Et il ne cherche pas l'Éternel des armées. Aussi, l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche du palmier et le roseau en un seul jour. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ceux qui conduisent ce peuple les gardent et ceux qui se laissent conduire se perdent. C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes, ni avoir pitié de leurs orphelins et de leurs veuves, car tous sont des impies et des méchants, et toutes les bouches profèrent des infamies. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Fin de la deuxième partie concernant le jugement de Dieu. Et puis, à partir du verset 17, car la méchanceté consume comme un feu qui dévore ronces et épines. Il embrase l'épaisseur de la forêt d'où s'élèvent des colonnes de fumée. Par la colère de l'Éternel des armées, le pays est embrasé et le peuple est comme la proie du feu. Nul n'épargne son frère. On pille à droite et l'on a faim. On dévore à gauche et l'on n'est pas rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. Manassé dévore Éphraïm, Éphraïm Manassé, et ensemble ils fondent sur Juda. Et puis la fin de la troisième partie, nous voyons ici cette même phrase répétée, malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Ainsi, nous continuons dans le chapitre 10. Il faut se rappeler que ces divisions de chapitres étaient placées plus tard par les éditeurs. Et parfois, où ils ont placé cette division, ça serait mieux de ne pas avoir placé là où c'est placé. En fait, ces versets du chapitre 10, verset 1 à 4, seraient mieux placés comme une partie du chapitre 9. Et là, nous voyons la quatrième partie alors. Ésaïe 10, verset 1, « Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. » Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? Les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Et donc, la quatrième, fin de quatrième partie maintenant, cette phrase encore, malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Alors, quelles sont les raisons citées ici dans ce passage pour le jugement de Dieu contre les 10 tribus du Nord? Nous savons que ces jugements concernent les 10 tribus parce que malgré le fait, verset 7, le Seigneur envoie une parole à Jacob. Cela représente tous les descendants de Jacob, mais en particulier, c'est écrit, elle tombe sur Israël. Et où vous voyez le nom Israël, là, dans le verset 7, il s'agit des 10 tribus du Nord. À ce temps-ci, lorsque la parole était adressée aux 10 tribus du Nord, qui se sont égarés pour commencer leur nouveau siège en Samarie et adorer le veau d'or, c'est Israël, parce qu'ils étaient les plus nombreux, 10 tribus. Et lorsqu'il s'agissait des 2 tribus du sud, c'est là que le titre de Judas est employé. Donc c'est clair, ces menaces sont contre Israël, les 10 tribus du Nord, parce que verset 8 nous le dit, tout le peuple en aura connaissance, Éphraïm et les habitants de quoi? De Samarie, qui disent avec orgueil et fierté. Parfois, Dieu utilisait le nom de la tribu d'Éphraïm pour représenter tous les tribus du Nord, parce qu'Éphraïm était la tribu la plus grande et la plus influente du royaume du Nord d'Israël. Donc c'est ainsi que ces termes sont utilisés. Mais quelle est la première raison que Dieu prononce ces jugements à travers la prophétie d'Ésaïe? On peut dire dans un seul mot, c'est l'orgueil. Est-ce que ce n'est pas ça qui condamne des pécheurs, c'est l'orgueil du cœur? Et à cause de leur orgueil, c'est ça que Dieu annonce, que Israël sera donc vaincu par ses ennemis. Le Seigneur a envoyé ce mot contre Jacob, et il est tombé sur Israël. L'idée est que le Seigneur a apporté ce mot comme une flèche contre tout son peuple. Donc, même ceux du sud ne pouvaient pas ignorer ces menaces. Mais pour ce temps-ci, le mot a trouvé sa marque contre le royaume du nord d'Israël, un coup direct. C'est comme un langage de guerre où quelqu'un lance une flèche et voilà, ça perce le cœur. Voilà où Dieu a ordonné à ce que cette parole trouve sa marque. C'est sur ce royaume du nord d'Israël. Et pour quelle raison? C'est là, à la fin du verset 8, nous voyons la raison pour ce jugement. Si quelqu'un se demandait, mais pourquoi Dieu juge les pécheurs? Dans un simple mot, c'est à cause de l'orgueil. C'est ce que nous lisons là dans le verset 8. Qui disent avec orgueil et fierté. Et qu'est-ce qu'il disait? Face même à ces prophéties du jugement. Dans le verset 9 et ceux qui suivent, Ils disent les briques sont tombées, mais quoi? Nous bâtirons en pierre de taille. Pour eux, c'est une bonne chose si ce jugement vient, parce que en fin de compte, ils vont reconstruire quelque chose de mieux. Tel était leur orgueil. Des sycomores ont été coupés, mais quoi? Nous les remplacerons par des cèdres. Les cèdres était une qualité de bois mieux que les sycomores avec lesquels ils avaient construit ou bâti leur maison. Donc, c'est dans leur orgueil. Et qui étaient ceux qui encourageaient le peuple de cette manière? C'était les dirigeants eux-mêmes. Dans leur orgueil, les dirigeants du peuple et le peuple du royaume du Nord ont dit: qui se soucie si Dieu ne juge? Voilà une manière de raisonner. Tout ce qui est démoli, nous le reconstruirons avec quelque chose de mieux. Est-ce que cela n'est pas la manière que les pécheurs raisonnent aujourd'hui, malgré ce qui s'est passé en histoire? Ils disent ça même en ce qui concerne la chute d'Adam. Oui, bien sûr, peut-être Adam a chuté, mais nous, aujourd'hui, nous allons bâtir, construire quelque chose de mieux par nos œuvres. Et c'est ainsi que les hommes, dans leur aveuglement et orgueil, raisonnent contre un Dieu saint et juste. C'est une façon de dire: nous n'avons rien à craindre de ce que Dieu peut amener contre nous. Et voilà l'orgueil que nous avons devant nous, non seulement dans nos cœurs, mais lorsque nous prêchons l'Évangile, c'est de tels cœurs à qui nous prêchons, des gens qui ne croient pas effectivement que le jugement est quelque chose à craindre. Et il y a beaucoup de faux prédicateurs qui sont prêts à donner de l'assurance aux gens que si seulement ils s'efforcent ou ils prennent leurs décisions, faire leur mieux, que Dieu honorera leur décision. Mais quel mensonge! Et voilà, au lieu de supplier à la face de Dieu, cause des nombreuses calamités qui s'étaient déjà abattues sur eux. Il y avait déjà des endroits autour d'eux où le roi de la Syrie avait déjà menacé et a conquis ses terrains. Mais malgré tout cela, il s'imaginait qu'il s'échapperait si seulement cet avantage de Dieu. Pourquoi je dis que rien n'a changé? Dieu n'a pas changé. Il est toujours Dieu et l'homme n'a pas changé. Il est toujours orgueilleux. L'homme préfère s'entraîner dans l'optimisme léger quant à l'avenir, ou imaginer non, avec un peu de temps, les choses vont s'améliorer. Mais nous savons que nous vivons dans un monde dépravé, et nous-mêmes, nous vivons avec un cœur dépravé. À cet orgueil que le verset 10 nous lisons: l'Éternel élèvera contre eux les ennemis de Rétsin et il armera leurs ennemis. Les Syriens à l'Orient, les Philistins à l'Occident, et ils dévoreront Israël à pleine bouche. Cela nous montre encore la souveraineté de Dieu en ce qui concerne les nations. Parce que Israël croyait pouvoir résister à la tempête d'attaque et ensuite reconstruire. C'est là que Dieu disait que non, non seulement un seul ennemi, mais plusieurs. Dieu enverrait des vagues successives d'ennemis contre Israël. C'est pourquoi il cite là quand il dit les ennemis de Rétsin, Ça, c'était le roi de Syrie. Et puis, les Philistins qui étaient toujours contre Israël, donc les Syriens devant et les Philistins derrière, ont constaté. Dieu a dit que Israël du Nord ne pouvait pas échapper. La destruction d'Israël devait être totale. Et leur fière promesse de reconstruction ne serait pas tenue. Effectivement, depuis ce temps, dans l'année 722, c'est là que la Samarie a chuté et les 10 tribus étaient prises en captivité et pour la plupart, on ne sait pas du tout. Il y a des historiens qui cherchent à savoir ce qui est. Lorsque Christ est venu et a prononcé le jugement contre la ville de Jérusalem et le temple, les gens ne croyaient pas. Pour cela, ils voulaient le tuer. Mais c'était dans l'année 70, effectivement, que Dieu a suscité cette fois-là les Romains qui sont venus et détruire la ville et le temple de Jérusalem. Et aujourd'hui, il n'y a que des ruines. Des ruines pour le temple. Pas maintenant, ce n'est que des ruines et les musulmans ont construit leur temple sur les ruines. Et ce temple existe là aujourd'hui que les musulmans gèrent. Alors, c'est pour dire que la parole de Dieu est sûre et certaine. Et lorsqu'il annonce un jugement imminent, cela se passe exactement comme il annonce, tel qu'il est Dieu. Un commentateur a écrit combien sont les détresses de centaines d'années. Combien sont les châtiments par lesquels il a été appelé à la repentance, c'est-à-dire le monde. Et pourtant, il ne semble pas que ces nombreux châtiments aient fait du bien. Au contraire, le luxe augmente chaque jour, les passions anarchiques s'enflamment et les hommes continuent dans la débauche. Bref, ces mêmes calamités paraissent avoir été autant d'exaltation pour le luxe et la splendeur. À quoi devrions-nous donc nous attendre, sinon à être meurtris par des coups plus violents? Quelle expression! Alors, ça c'est la première raison que nous voyons dans ce passage concernant les jugements de Dieu à cause de l'orgueil de l'homme. Comme nous avons vu dans le verset 13 jusqu'au verset 17, la deuxième raison pour les jugements de Dieu, on peut résumer dans un seul mot, c'est l'impénitence du cœur. L'orgueil, premièrement, mais l'impénitence. Parce que l'homme laissé à lui-même va toujours refuser de se repentir. Cette idée que l'homme a un libre arbitre et si seulement comme un feu on puisse souffler là-dessus un peu et voilà, le cœur va s'enflammer vers Dieu, ça c'est faux. Le cœur est tordu plus que toute autre chose et qui peut le connaître? Mais c'est à cause de l'impénitence du cœur. Dieu ne doit pas accorder la repentance, ça c'est le don de Dieu qu'il donne par sa grâce, mais l'impénitence du cœur, c'est le fruit de ce que c'est d'être pécheur et que si Dieu laisse les hommes à l'obstance, ils vont continuer toujours dans l'impénitence. et ceux qui étaient les plus coupables de cela, c'était les dirigeants eux-mêmes. Ici, dans le verset 13, c'est écrit « Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche du palmier et le roseau en un seul jour. » Et puis, ça explique ce que signifie la tête et la queue. Et la branche du palmier, il s'agit de l'arbre qui pousse vers le ciel et le roseau, ce qui représente les racines de la tête jusqu'à la base. Tous étaient coupables. Mais verset 14 l'explique. L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Nous avons la même chose aujourd'hui. Ce mariage qui existe entre la politique et la soi-disant Église. Ouais, il y a ce mariage qui existe aujourd'hui, que ce soit l'Église catholique romaine, c'est pourquoi ils appellent ça romaine, c'est parce que sa base est en Rome et c'est une certaine politique. Et nous avons ça dans toutes les nations. L'Église d'Angleterre a pour tête jusqu'à aujourd'hui, la reine en Angleterre, elle règne sur cette organisation qu'on appelle l'Église d'Angleterre. Donc, ça a toujours été comme ça. Et c'est pour ça que Dieu menace alors tout le peuple. Quelques-uns peuvent dire oui, mais puisque c'est les dirigeants qui dirigent mal le peuple, donc c'est les dirigeants qui sont alors coupables. Non, les dirigeants et le peuple. C'est écrit que le peuple s'égare. Dans le verset 15, ceux qui conduisent ce peuple l'égare et ceux qui se laissent, notons, ceux qui se laissent conduire se perdent. Donc on ne peut pas séparer les deux. C'est pourquoi nous devons faire attention à qui nous nous donnons pour nous soumettre en ce qui concerne l'adoration ou la prédication, parce que comme va la tête, ainsi suit la queue. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui suivent des mauvais dirigeants. Leur intérêt n'est pas de prêcher Christ et Christ crucifié. Pourtant, les gens sont aussi coupables que leurs dirigeants parce que ce sont les peuples qui se laissent, ouais, comme c'est écrit verset 15, ils se laissent conduire et ainsi ils se perdent. Mais nous voyons donc à la fin de cette deuxième partie, en ce qui concerne l'impénitence, comme la raison pour laquelle Dieu les condamne, nous voyons cette même phrase répétée encore pour tout cela. La colère de l'Éternel, verset 18, des armées est embrasée et le peuple est comme la proie du feu. Nul n'épargne son frère. Mais pour tout cela, les gens ne se détournent pas et la main de Dieu est donc toujours étendue dans le jugement contre cela. Maintenant, la troisième partie, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21, la troisième raison qui est citée ici, c'est la méchanceté. L'orgueil, l'impénitence et la méchanceté. Ici, c'est un genre de méchanceté ou frère contre frère. C'est-à-dire que c'est le mal que quelqu'un a dans son cœur qu'il exerce contre un autre être humain. Et au lieu de respecter les autres comme créatures de Dieu, alors il se met au-dessus des autres, même jusqu'au point de les tuer, ce qu'il en faut, pour avoir ce qu'il cherche. Voilà la méchanceté. Et cela est décrit dans Le verset 19, on pile à droite et l'on a faim. On dévore à gauche et l'on n'est pas rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. Il faut se poser la question, pourquoi est-ce que l'homme se tourne contre l'homme? Parce que nous sommes tous des pécheurs, mais faisons attention, parce que souvent, quand même dans l'assemblée des croyants, nous voyons d'autres qui ne peut-être suivent pas des voies que nous imaginons ou bien que nous désirons qu'ils suivent, alors nous réagissons contre eux. Et nous ne réfléchissons pas en ces moments-là, dans notre colère, que peut-être que ceux-là sont parmi le nombre que Dieu a élu et pour qui Christ est mort, mais que l'Esprit n'a pas encore attiré. Pourtant, le Seigneur les a placés à côté de nous. Et la méchanceté même de notre cœur nous conduit à les menacer et à les condamner par nos paroles, à les juger. Autre, au lieu de prier pour eux, que si Dieu leur daigne leur faire miséricorde comme il nous a fait miséricorde, que cela soit sa volonté. Alors nous ne pouvons pas juger ceux d'Israël pensant que nous sommes mieux. Nous avons cette même méchanceté dans nos cœurs. Et ici, c'est décrit comme une méchanceté qui brûle comme le feu. Le prophète Isaïe a vu la méchanceté d'Israël comme un feu de forêt qui fait rage, imparable, rapide, incontrôlé, dévorant tout ce qu'il touche comme un feu. Jacques, dans son épître, décrit notre langue de cette manière. Il suffit simplement de dire quelque chose contre quelqu'un, et voilà, le feu est allumé. Et le peuple est comparé ici à un feu combustible pour le feu. C'est comme le poudre du jugement que Dieu a alimenté par le peuple. Dans deux sens. Premièrement, leur méchanceté alimente le feu du jugement de Dieu. Et deuxièmement, ils sont brûlés et détruits par ce même feu. Le feu décrit le caractère de Dieu dans sa sainteté et sa colère. Donc, ce même feu que nous allumons contre d'autres qui sont l'autrui, si Dieu ne nous fait pas grâce, nous allons nous-mêmes subir ce même jugement et personne ne pourrait alors épargner son frère. Et c'est dans des détails horribles ici que le prophète parle du carnage qu'un Israélite infligera à un autre. Souvent, on imagine que l'ennemi, c'est à l'extérieur, mais l'ennemi est à l'intérieur. Il est au-dedans de nous. Et comme le feu de forêt du jugement de Dieu brûle, mais Dieu laisse simplement les passions mauvaises et les haineuses des hommes brûler entre elles. Dieu n'avait pas besoin d'allumer le feu ou d'attiser les flammes. Il a simplement enlevé le retardateur de feu qui avait tenu en échec les passions mauvaises et haineuses des hommes. Ça, c'est la main de Dieu. L'homme, si Dieu enlève sa main de l'homme, l'homme va toujours se dévorer. Alors, nous voyons cela décrit dans le verset 17, la méchanceté consume comme un feu, qui dévore ronces et épines. C'est une manière pour Dieu de prononcer ses jugements contre un peuple. Lorsqu'il laisse ce peuple à lui-même, le peuple se dévore. Mais c'est ainsi le verset 18 le dit, par la colère de l'Éternel des armées, des pays le pays est embrasé et le peuple est comme la proie du feu. Mais à la fin, c'est écrit malgré tout cela. Cela nous montre que pour un pécheur de se convertir, il faut l'œuvre de l'esprit dans le cœur. Ce ne serait pas à travers des jugements, des menaces, que les gens vont se convertir. Dieu envoie ces choses pour démontrer son pouvoir et sa colère, sa justice contre le péché. Mais si Dieu n'intervient pas par son esprit, à travers la prédication de l'évangile, de faire sortir les pécheurs qu'il a choisis du feu, alors aucun ne pourrait se repentir. Voilà ce que nous sommes en train de comprendre chaque fois que cette phrase, ça c'est la troisième partie, est répétée. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue dans le jugement. Ça c'est la troisième fois. C'est comme un chœur d'une chanson qui est présentée. Le jugement contre la méchanceté d'Israël n'était pas suffisant. Il y avait encore du péché à juger. Et Dieu n'était pas prêt à arrêter son œuvre de jugement. Il y en a qui pensent que, oh, après un certain temps, Dieu, il aura pitié, même à l'enfer, il va faire sortir des gens qu'il a jetés à l'enfer. Non, ça c'est un jugement sans fin, éternel, lorsque Dieu détermine de juger les pécheurs. Et encore, la seule raison pour laquelle d'autres ne sont pas jugés, c'est parce que c'est Christ lui-même qui a porté ce jugement. N'ignorons jamais cela, n'oublions jamais cela. Que c'est la colère de Dieu qui est tombée sur son Fils, comme dans l'Ancien Testament, le feu sur le sacrifice, que ceux pour qui Christ est mort sont sauvés. Voilà notre salut, c'est dans la mort de Christ. Mais à part sa mort, nous aurions connu le jugement certain de Dieu, comme beaucoup d'autres. Mais la dernière raison dans le chapitre 10, versets 1 à 4, pour laquelle Dieu juge les pécheurs, on peut dire c'est à cause de l'injustice sociale. Et il dit à cela dans le verset 1, et cela est adressé surtout aux dirigeants, « Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. » Aujourd'hui, dans notre nation, les États-Unis, ça a été arrêté que les femmes pouvaient aller et avorter des enfants dans leur sein depuis le commencement. Et maintenant, cela, les lois continuent à changer jusqu'à ce que dans certains États, l'enfant peut même être né et la femme, ensemble avec les médecins, décide de prendre la vie de l'enfant et il ne l'appelle pas le meurtre. Quand je regarde ça, j'imagine, mais quel jugement! Et imaginez que ce sont des ordonnances iniques, mais ça vient des hommes iniques. Et il ne faut pas penser que Dieu ignore tout cela. Ça, c'était le cas ici. Ceux qui transcrivent des arrêts injustes. Il y a dans certains pays et à travers l'histoire où il y avait des ordonnances qui ont été prononcées contre le véritable peuple de Dieu pour défendre cela de se réunir pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Et les gens ont dû subir les conséquences, même jusqu'à la mort, à cause de ces ordonnances. C'était comme ça au temps de Christ, où ils ont essayé de défendre les disciples, de suivre Christ. Et il faut savoir que les apôtres ont tous donné leur vie à cause du témoignage de Christ. Mais c'était à cause des ordonnances iniques et des arrêts injustes. C'est pourquoi Pierre a dû dire à ceux qui ont voulu l'arrêter et l'empêcher de prêcher. Il leur a dit de juger entre eux-mêmes si c'était mieux d'obéir à Dieu ou obéir aux hommes. Et il se peut que nous tous, nous arrivons à un tel point à cause de l'injustice sociale. Alors, c'est ainsi que Dieu leur pose cette question dans le verset 3. Que ferez-vous au jus du châtiment et de la ruine qui, du lointain, fondra sur vous? C'est une manière de poser la question, vers qui fuirez-vous pour demander de l'aide? L'idée est la suivante, lorsque vous avez abandonné les autres, en cas de besoin, vers qui irez-vous pour obtenir de l'aide lorsque vous en aurez besoin? Et donc, la question est posée là dans le verset 3. Les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Voilà la fin lorsque Dieu détermine amener le jugement contre un peuple. Mais malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Faut dire que la colère de Dieu est sur les hommes méchants aujourd'hui. Ceux qui ont échappé à sa colère sont seulement ceux qu'il a choisis du milieu de toutes les nations de la terre. Et il a donné à son fils pour qui Christ est mort et il doit les attirer un jour. Mais tous les restes subiront son jugement et son jugement juste. Alors, cela est donné pour nous aider à nous à réfléchir sur le caractère de Dieu et sa justice et combien nous devons annoncer ce message aujourd'hui. En prêchant l'évangile, c'est comme une épée à double tranchant. D'un côté, oui, c'est un message du salut pour ceux pour qui Christ est mort, mais l'autre aussi, c'est un message de jugement contre ceux qui sont laissés à eux-mêmes et doivent subir alors le juste jugement de Dieu. Alors que son nom soit honoré et qu'il se donne la gloire à travers ce que nous venons de voir. Amen.